Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de détente et de découverte rieuse pour vous, d'une compétition sans pitié pour eux. Vous le savez désormais, chaque après-midi, ayant constaté la désinvolture qui régnait parfois dans la rédaction d'Europe 1, j'ai décidé de taper du poing sur la table et de transcrire en émission l'analyse qu'avait faite Arnaud Lagardère, notre patron, en fin de saison dernière, à savoir...
Ça va bien les conneries maintenant.
J'ai donc pensé que le meilleur moyen d'obliger les journalistes d'Europe 1 à se dépasser au service de votre culture G, c'était de les mettre en compétition. Chaque après-midi, un seul sera élu chroniqueur du jour, vous votez via Twitter pour qui vous voulez, sauf pour Eva Rock qui, elle, allez savoir pourquoi, est hors compétition. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Et chaque après-midi, notre championnat européen a lieu sous la haute autorité, vous le savez, d'un invité arbitre. Aujourd'hui, c'est une chanteuse qui, comme disait mon papy, me rend tout chose. Alors oui, je sais, pour un type supposé être sarcastique, j'ai déjà largement exposé mon quota de niaiserie pour la semaine avec Clapiche lundi, mais là, rebelote, voici Jeanne Chéral.
Je te cours, le souffle court.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, c'est vrai, j'en fais pas mystère.
Ah, c'est vrai, vous êtes tout chaude.
Oui, je suis vraiment tout chaude. Je suis fan de vous, bah, ça, c'est des choses qui arrivent. Surtout depuis l'écoute de votre nouvel album, L'An 40, qui sort la semaine prochaine, le 20 septembre. Très franchement, mais alors vraiment, avec la plus absolue sincérité, j'ai été scotché dès le premier titre, L'An 40. Pour démontrer à nos auditeurs le niveau de ce disque, je vous propose d'écouter l'intro du concert de Cologne de Keith Jarrett, un des plus grands pianistes du XXe siècle. Et maintenant, je vous propose, ami mélomane, d'écouter l'ouverture de l'album de Jeanne Chéral. Tout de suite, la réaction posthume de Jean-Pierre Marielle.
Ah non ! De Dieu, de bordel de merde.
Eh oui, c'est beau, hein. Mais déjà, mais qui se permet une ouverture piano aussi longue dans un monde où tout le monde calibre les chansons 3 minutes pour la radio? Ben oui, ben vous, Jeanne Chéral. C'est magnifique.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous... Ah,
ben, je sais pas.
Vous puissiez souligner ça, c'est... Non, franchement, ça me touche.
Mais c'est... Enfin, je suis désolé, en fait, je vais dire la vérité. Je savais même pas que Jeanne Chéral était pianiste à la base. Du coup, j'ai été complètement renversé par cet album parce que ce toucher, enfin, moi, ça m'évoquait Keith Jarrett, que j'adore.
Non, mais c'est une super belle référence.
Alors, on va parler de ce sujet. Sublime album, mais d'abord je me dois de vous planter le décor en vous présentant nos deux premiers concurrents. À ma gauche, il est le jeune Chéral d'Europe 1, c'est-à-dire le seul d'entre nous qui a des bons articles dans Télérama. Nicolas Caro, vous êtes le monsieur littérature d'Europe 1. Vous stagnez actuellement dans le ventre mou du classement avec, je crois, 7 points. Avec quel sujet allez-vous rebondir aujourd'hui?
À la fois, c'est dégueulasse parce que c'est moi qui vous ai soufflé cette comparaison avec Keith Jarrett.
Pas du tout. C'est honteux. C'est absolument honteux.
Je vais vous parler
honteux.
Des droits des lecteurs par Daniel Pennac. On a des droits en tant que lecteur.
On a des droits.
Oui,
parce qu'on a parlé du droit des auteurs avec Yann
Moix. Des lecteurs.
À ses côtés, Jeanne, la plus mélomane des journalistes d'Europe 1. La seule d'entre nous à posséder l'oreille absolue. Elle représente aujourd'hui le service reportage. Laure d'Autriche fait son entrée en compétition. Bonjour Laure.
Bonjour.
Et Laure, c'est un air mythique, légendaire. Vous l'aurez évidemment reconnu, Eva.
J'adore Sanseverino.
Presque, le boléro de Ravel. Oui. Le boléro de Ravel qui a plein de secrets, mais pas pour vous, Laure d'Autriche.
Oui, je vais essayer de vous raconter les secrets du boléro de Ravel.
Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Jusqu'à 18h, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre pour vous offrir la meilleure chronique sous l'œil de notre invité arbitre du jour, dont la voix, la si belle voix, vaudra triple en fin d'émission, peut-être quadruple. On pourrait changer les règles pour Jeanne Chéral.
Elle est un peu cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre.
Votre nouvel album s'intitule L'An 40, mais on s'en fout pas du tout, c'est un petit bijou, et à défaut d'être le fameux album de la maturité, c'est en tout cas celui d'un premier bilan, 40 ans, mais pas de carrière quand même, Jeanne.
Non, pas tout à fait. Non, mais j'ai bien 20 ans de carrière. Hein.
20 ans de carrière
mais
déjà.
Quand j'y pense, ça me fait flipper. Mais non, 40 ans, ouais, j'avais envie de célébrer en fait cet âge. J'ai écrit ce disque l'année de mes 40 ans, l'année dernière, donc j'ai 41, je bluffe un peu. Et cette année 2018, enfin, je l'ai vraiment traversée un peu en suspension, un peu en état de grâce. Quoi. Je me suis permise de prendre une semaine par mois pour écrire et j'ai adoré cet âge, j'ai adoré cet équilibre et 40 ans pour une femme, je trouve ça super.
Alors, vous êtes maman. Visiblement, ça ne vous empêche pas d'être femme à 100%. Vous êtes très sensuelle dans cet album. Il y a d'abord ces hanches qui roulent facile, naturelle dans le titre L'An 40, et puis le titre 69, où là, on entre carrément dans l'érotisme. J'entends ton sang qui appelle mon sang, de ta langue à ma sève, nourris ton corps avec mon corps, que le festin s'achève. Ah, me boire à la source, je crois qu'il n'y a pas de meilleur mais pour toi. Ma question est simple, comment avez-vous accès comme ça au journal intime des Varrocks ?
Alors, cochon !
Non mais vous qui êtes si pudique sur votre vie privée, vous n'hésitez pas avant une chanson comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est l'art qui sublime tout. On peut parler d'un 69 dans une chanson, il n'y a pas de problème.
Bah, moi je ne me mets aucun tabou en chanson. Franchement, c'est vraiment un avantage d'avoir un média comme ça, un mode d'expression. Disons qu'en chanson, je peux aborder des choses effectivement.
Que vous n'oseriez pas aborder dans la vie.
Bah non, ni dans la vie, ni en interview. mais c'est vrai, sur mon album précédent, je parlais du désir d'enfant. C'est pareil, c'est quelque chose de tellement... c'est la sphère de l'intime, quoi. Et puis là, ouais, une chanson érotique plus, comme cette chanson 69. Pour moi, j'ai aucun problème à l'écrire ni à la chanter. Après, bon, aborder un sujet comme ça entre 16h et 18h sur une grande antenne, peut-être pas.
Son album sort le 20 septembre, il s'intitule L'An 40. Elle sera ensuite en tournée dans toute la France. Quelques dates, Eva, peut-être?
Surtout les Folies Bergères, ce sera le 3 décembre 2019, une grande scène pour vous et puis une tournée dans toute la France, effectivement, dès cet automne.
Jeanne Chéral est notre invitée jusqu'à 18h. Europe 1. L'équipe est sauvage continue, la rigueur journalistique d'Envoyé Spécial, le suspense d'Interville. Car chaque après-midi, désormais, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour. Comme disait Gulux...
Dépêchons, messieurs les cochons, messieurs les poulets.
Qui remportera la margoulette ? Peut-être Nicolas Carreau. Suite à l'affaire Yann Moix, on a beaucoup parlé dernièrement du droit des auteurs, mais quid du droit des lecteurs ? A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, 2 heures de bonne humeur avec de vrais morceaux d'infos dedans. Continue avec Eva Rock, Lord d'Autriche, notre invité d'honneur Jeanne Chéral pour son nouvel album L'An 40. Et voici le dandy de la bande, Nicolas Carreau. Notre expert littérature, merveilleux conteur à la voix de miel qu'Eva pourrait écouter parler pendant des heures.
Oh, quand tu parles, c'est extraordinaire ce que ta voix virile m'excite.
Oui, merci Eva. Nicolas, vous nous parlez aujourd'hui du droit des lecteurs. Qu'entendez-vous par là ?
Ben oui, c'est le grand Daniel Pennac qui le dit. On a des droits en tant que lecteur. Il a publié ça dans Comme un roman, c'était en 92. Et il propose 10 droits imprescriptibles de lecteur. Je vous les donne. Loi de Pennac numéro 1, le droit de ne pas lire.
Et c'est ça.
Comme dit Pennac, comme toute énumération de droits qui se respectent, celle des droits à la lecture devrait s'ouvrir par le droit de ne pas en user, en l'occurrence le droit de ne pas lire, faute de quoi il s'agirait pas d'une liste de droits, mais d'un vicieux traquenard. Règle numéro 2, le droit de sauter des pages. On peut goûter un livre, effectivement, sans forcément le lire de A à Z, avec la préface et tout. On peut même sauter des chapitres. Pennac explique, lui, il a lu Guerre et paix en sautant la moitié des pages. Moi, je peux vous dire que Les Misérables, par exemple, vous pouvez faire pareil sur le chapitre Waterloo, sur les égouts de Paris, ça dure des plombes et tout. C'est pas hyper intéressant. On peut vraiment sauter les passages pour revenir à l'intrigue. Ça n'enlèvera rien à la qualité de la lecture et au génie de Victor Hugo. Règle numéro 3, le droit de ne pas finir un livre. Et oui, il faut arrêter de mettre un point d'honneur à finir absolument un roman si on en a marre. S'il est mauvais, il ne deviendra pas bon subitement au dernier tiers. Et parfois, même le bouquin est bon. Mais alors là, ce n'est pas Pennac, c'est un prof de lettres américain qui disait ça. Je vous en reparlerai un jour. Mais lui, il dit carrément qu'on peut même arrêter un bouquin qu'on aime. Si on commence à s'ennuyer, si on a, comme quand on n'a plus faim, on a mangé un super gâteau, mais on n'a pas envie de le terminer non plus.
C'est terrible.
Et donc
pour
on l'arrête. Bah oui, mais ça ne s'empêche pas d'y revenir plus tard si on veut, mais on peut l'arrêter. Si on en a envie, c'est important. Règle numéro 4, le droit de relire. Moi, je dirais même le devoir de relire un livre pour certains. Il y a beaucoup de livres que vous ne lirez pas de la même façon
été,
à 14 ans ou à 40.
Par exemple, j'ai jamais lu, mais chaque été, je tente de lire le début de la recherche et à chaque fois, j'arrête.
Règle numéro 5, le droit de lire n'importe quoi. Pennac explique qu'il y a de bons et de mauvais romans, certes. Il ne tient pas du tout le discours du type relativiste pour qui tout se vaut, mais Pennac ajoute qu'on a le droit de se lire un mauvais roman de temps en temps, facile, un peu bébête, mais sympathique, ça renvoie à plein de choses, pourquoi pas. On a le droit de se faire un McDo plutôt que de cuisiner un bœuf bourguignon. Règle numéro 6, le droit au bovarisme. Le bovarisme, ça vient de Madame Bovary, bien entendu. Pour faire court, c'est prendre les romans au pied de la lettre, se laisser étourdir et s'imaginer autre que soi. Ça peut être dangereux, mais c'est bon et on a le droit. Règle numéro 7, le droit de lire n'importe où. Voilà. Règle numéro 8, le droit de grappiller, c'est-à-dire ouvrir le livre n'importe quelle page, lire quelques phrases, refermer, ouvrir un autre chapitre, etc. Bon, pour la cohérence de lecture, c'est plus compliqué, oui. mais si le roman est vraiment très très bon, il y a des morceaux de génie un peu partout, on peut les chercher comme ça. Règle numéro 9, le droit de lire à haute voix. Flaubert d'ailleurs lisait ses textes à haute voix.
Si vous lisez à haute voix dans le métro, vous risquez...
Ah bah les gens vont peut-être vous donner des pièces, cela dit.
Mais vous pouvez toujours invoquer le droit des lecteurs. Mais Flaubert, lui, lisait ses propres textes pour s'assurer de leur sonorité. Il n'y a pas de raison que le lecteur ne le fasse pas.
Vous faites ça, vous, avec vos chroniques ?
Pas du tout.
Vous faites... Bah, vous devriez. Vous devriez.
Règle numéro 10, le droit de nous taire, justement. Vous voyez, ça, c'est le plus beau droit. Moi, j'en suis privé justement à cause de mon métier. Mais enfin, j'y renonce avec plaisir pour vous. C'est le droit de ne pas donner son avis sur un roman qu'on vient de lire. On a adoré. Il est en nous. Il n'y a rien de plus à dire. C'est tout. Et voilà, je me tais maintenant.
J'ai une question.
Allez-y, Jeanne, évidemment, Jeanne Chéral.
Je vais vous demander quel est le comble pour Balzac.
Le comble pour Balzac.
Bah, c'est un grenier avec des poutres, mais ça va prendre 120 pages.
Vous êtes sur France
ça,
Culture.
C'est les combles de Balzac.
Merci Nicolas Carreau. J'ai l'impression que votre chronique a plu à Jeanne Chéral.
Ah,
oui, oui, oui. Son nouvel album, L'An 40, sort la semaine prochaine. La géniale Jeanne Chéral est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, 2 heures pour muscler votre cerveau sans pour autant scléroser vos zygomatiques, même si eux ne sont pas là pour rigoler. Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 s'affrontent. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Certains étaient un peu tendres, un peu mous. J'ai donc été obligé de les briefer.
Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux. Personne ne frappe aussi fort que la vie. L'important, c'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
Ouais, on n'a pas trouvé mieux. À suivre, tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le Boléro de Ravel sans jamais oser le demander. Je vous le dis, Nicolas Carreau, avec la séance de coaching que je lui ai faite, l'or d'Autriche va vous déchirer. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'une ébouriffante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul vainqueur, votre Culture G. Une nouvelle émission déjà adoubée par Le Parisien, Télérama et surtout nos invités qui adorent. Des invités qui croient fort en l'émission, comme Manu Payet me le faisait finement remarquer hier à l'issue d'un de mes gags sonores. Quand je disais à mon père que je voulais monter à Paris faire de l'humour, il n'était pas partisan de la méthode Dolto.
Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué.
Raté, papa. Je suis pas clochard.
Attends les sondages.
Ah, on l'embrasse, Manu. Aujourd'hui, ça devrait mieux se passer. On reçoit Jeanne Chéral.
Le feu au jour qui monte, qui monte, qui vient toujours avec la honte.
Jeanne Chéral, votre nouvel album L'An 40 sort la semaine prochaine. Vous serez ensuite en tournée dans toute la France. Eva, quelques dates?
La première date, c'est le 7 novembre, si je ne me trompe pas, à Thaon-les-Vosges, à la salle La Rotonde. Et puis, on vous retrouve jusqu'au mois de mai. Vous avez déjà des dates. Jusqu'au 12 mai, vous serez à Saint-Nazaire le 12 mai. Je ne sais pas si vous saviez, mais voilà, vous voyez. Mais vraiment, vous allez avoir du boulot, hein, parce que
oui, non, c'est son métier.
Parti sur les routes de France. Hein.
J'aime bien tourner.
Alors, Jeanne Chéral, on peut aimer beaucoup de choses chez vous. On peut aimer votre voix, votre sens de la mélodie, votre toucher au piano. Mais non, je ne la drague pas, je la kiffe, c'est différent. Arrêtez. Au-delà du talent artistique, ce qu'on peut adorer chez vous aussi, c'est votre simplicité. Vous dites ainsi, par exemple, j'ai zéro tube et c'est une chance, je n'ai aucune obligation en concert. Ça, c'est vrai que c'est pratique.
Ah bah j'essaie de tourner ça à mon avantage, forcément. Effectivement, j'ai pas de tube, mais ouais, c'est vrai que je suis pas attachée à une chanson. Enfin, j'ai que des plus grands insuccès. Donc quelque part, je peux les enchaîner.
Oui, mais enfin ça, c'est une modestie. Vous avez aussi beaucoup de fans très fidèles.
Bah ça, ouais, c'est la chance de pouvoir beaucoup tourner. Au bout d'un moment, on retrouve un peu des gens sur les concerts, à l'entrée des radios.
Ils sont là.
Ouais, c'est drôle.
On vous réclame pas, par exemple, des chansons du deuxième album. Non, je pense à Au Petit Voisin.
Eva, un truc avec le deuxième album.
Ouais. Parce que ça fait partie des albums que j'ai écoutés en boucle et que je continue d'écouter en boucle, ce qui est plutôt rare avec tout ce qu'on a la possibilité d'entendre. Je pense à Super 8, je pense à Au Petit Voisin qui a été quand même. Les gens vous les réclament pas encore aujourd'hui?
Si quand même, si ouais. ça arrive qu'on me les demande. Le Petit Voisin, ça fait longtemps que je l'ai pas chanté, mais c'est en train de maturer là dans ma tête. J'essaie de voir ce que je vais pouvoir réinjecter comme vieille chanson, comme chanson plus ancienne, parce que forcément quand on sort un disque, on a essentiellement envie de jouer l'album, mais faut quand même penser aux gens qui te connaissent depuis 15 ou 20 ans.
Alors, en parlant de scène, justement, on avait l'habitude de vous entendre plutôt piano-voix. Là, sur le nouvel album, c'est très orchestré, il y a même une chorale gospel. Vous serez combien sur scène là? Ça va être Beyoncé?
On sera 27. En fait, on sera 4 sur scène. J'aurai 3 musiciens avec moi. J'ai j'ai fait le choix de proposer des arrangements de scènes qui seront assez différents, parce qu'effectivement je pouvais pas me permettre d'emmener une grosse section de cuivre et une grosse chorale gospel pour reproduire les arrangements. Et pour moi, les chansons, elles peuvent avoir plusieurs vies, quoi. Voilà, elles ont une vie qui est fixée sur un album, mais après leur vie scénique elle va se développer autrement. Et je pars notamment, enfin je pars avec un autre pianiste. Je tenais à avoir, j'ai beaucoup superposé des pianos là, sur l'album. Il y a plusieurs morceaux comme ça qui ont une inspiration un peu musique répétitive, des pianos qui se répondent, qui s'entrelacent. Donc je voulais deux pianos.
Ça va être beau. Alors il y a un autre titre bouleversant sur l'album, un adieu, hommage à un artiste qui a beaucoup compté pour vous, c'est Jacques Higelin. Ça a été une rencontre décisive dans votre carrière, Jacques Higelin.
Ah ouais, vraiment.
Comment ça s'est fait cette rencontre ?
Bah, en fait, quand j'ai démarré, j'ai fait des premières parties pour lui. Et ça a été une espèce de choc. Enfin, je l'écoutais étant ado. Hein. Enfin, l'album Tombé du ciel, ça a été vraiment un album hyper, hyper important pour ma famille et pour moi. Et en faisant ces premières parties, je lui ai écrit une chanson. Enfin, j'avais envie de chanter un duo avec lui en me disant, s'il n'accepte pas de la chanter, ce sera personne d'autre. Enfin, c'est lui ou personne. Et donc, c'est une chanson qui est sur mon deuxième album. Et
ben,
c'est
un...
Ah, ben voilà.
je voudrais dormir avec... C'est ça ?
Je voudrais dormir avec Jacques Higelin.
Et là, ça s'appelle Un adieu. L'an 40, c'est le titre de ce nouvel album qui sort la semaine prochaine. Jeanne Chéral passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. Et la suite du programme ne va pas me faire mentir, puisque l'Équipée Sauvage va vous proposer en exclusivité mondiale, ou nationale, ou en tout cas francilienne, les secrets les mieux gardés d'une des pièces classiques les plus célèbres de l'histoire, le Boléro de Ravel. Premier secret que je suis en mesure de vous révéler, à l'option musique du bac, Eva Rock est tombée sur le Boléro.
Je jure que c'est pas moi.
Elle a eu 3. À tout de suite.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'Équipée Sauvage continue. 2 heures en équilibre sur ce fil 1 et 3 qui sépare le journalisme exigeant de la bonne humeur potache. 2 heures aussi, vous le savez, d'une éprouvante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se disputent le titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité d'honneur, Jeanne Chéral, pour la sortie de son nouvel album L'An 40. Et justement, Jeanne, l'heure est venue de vous présenter une nouvelle compétitrice, plus précisément une machine à gagner. Comme son nom l'indique, l'or d'Autriche n'est que rigueur et précision. C'est une des journalistes d'Europe 1 les plus en vue. Beaucoup de ses collègues sont même fans d'elle. Ils sont en pamoison à chaque fois qu'ils l'entendent, comme notre expert sport Jérôme Lacroix. Écoutez.
À quelques mètres de la plage de Juno, tous les pays rassemblés.
J'adore l'or d'Autriche.
C'est la cornemuse ?
Non, c'est l'or d'Autriche.
L'or, vous nous livrez ce matin une analyse du Boléro de Ravel qui n'avait visiblement pas encore livré tous ses secrets. Jusqu'à ce que vous vous penchiez dessus.
Oui, c'est ça. Alors, je dois vous confesser quelque chose. On m'a dit, si tu veux gagner cette compétition, il va falloir passer le Boléro en arrangement mambo, en arrangement disco, en arrangement électro.
Ah oui,
j'ai failli le faire. Et je me suis dit que
mais
j'allais rester moi-même pour ma première. Alors, j'ai voulu vous parler de ça parce qu'il y a une bande dessinée qui sort tout juste sur Ravel. C'est très rare dans le milieu de la musique classique d'avoir une bande dessinée sur Ravel. Ça s'appelle Un imaginaire musical. Et on y parle du fameux Boléro. C'est l'œuvre, évidemment, la plus jouée au monde. Savez-vous qu'elle est jouée toutes les 20 minutes quelque part dans le monde ?
Moi, je pense surtout au droit d'auteur. Hein.
Ouais, hein, en
c'est
effet.
Beau, Jeanne. Hein.
Alors, petit rappel, le Boléro, c'est ça. Vous entendez les coups de baguette derrière.
Ah oui.
À votre avis, combien de coups de baguette joués par les percussions dans cette œuvre qui dure 17 minutes ? Combien de coups de baguette ?
10 850.
Combien, Jeanne Chéral ?
Je dirais 860.
4000 coups de baguette sur 17 minutes. Et alors,
ça, c'est
œuvre...
la version 92.
Cette œuvre, bien sûr.
Chez Dutch Gramophone.
Elle ne ressemble à aucune autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. En quelques mots, tout est parti d'une danseuse très riche, russe, Ida Rubinstein, qui, dans les années 20, commandait des ballets sur mesure. Elle réservait tout l'Opéra Garnier pour ça, plusieurs fois par an. Et elle rêve alors d'un ballet d'inspiration espagnole. Ravel, lui, veut prendre une œuvre qui a des déjà été écrites, hein, mais les droits ne sont pas libres et donc il est pris par le temps. Il doit écrire très vite, il se lance un défi. Il écrit une première mélodie très facile que tout le monde peut siffler. Effectivement, ah oui. On l'a tous en tête, en tout cas le début. Et il répète ça pendant 17 minutes. Il choisit surtout de choisir comme socle cette cellule rythmique. Et c'est comme ça que le boléro naît. Alors, œuvre tout à fait étrange. À votre avis, le jour de la création, succès ou échec ?
Échec. Bah, peut-être échec,
ouais, échec.
Parce que ça se répète rigolo. Et du coup ça a surpris les gens.
Eh bien non, plutôt non. Succès. En tout cas la presse.
C'est quelle date ?
Alors, on est en 1928 et succès immédiat, en tout cas la presse est emballée, ivresse vertigineuse, incessante sorcellerie, voilà, c'est un succès énorme, mais quand même dans la salle ce soir-là il y a une dame qui dit « Oh fou !» Voilà. Et d'ailleurs, et Ravel n'a pas du tout été paniqué par ça. Il a dit « Ah, cette dame-là a tout à fait compris. Le boléro est le seul chef-d'œuvre que j'ai jamais écrit. Malheureusement, il ne contient pas de musique. » Voilà.
C'est
étonnant. Alors, en fait, on ne connaît pas grand-chose de Ravel à part le boléro. Et pourtant, il fait partie des quelques compositeurs à n'avoir écrit que des chefs-d'œuvre. Aucun déchet dans sa musique, aucun gâchis. Et ça, c'est tout à fait étonnant chez ce compositeur. Et pourtant, voilà. Énorme compositeur qui a malgré tout échoué.
Il y a Jean-Charles aussi.
Ouais.
Qui a échoué. Ravel et
Gérard. Il a échoué pourtant 4 fois au prix de Rome, prestigieux concours de composition. Un mot enfin sur ce Ravel, personnage incroyable. Physiquement très petit, 1m61, qui compensait sa petite taille avec une apparence impeccable, très maniaque. Il refusait d'aller en concert sans ses souliers vernis, par exemple. Vous voyez, c'est ces petites choses auxquelles il tenait. Et puis enfin, un mot sur ce grand compositeur qui s'est démené pour participer à la Première Guerre mondiale. Il a remué ciel et terre pour aller au front, mais il était trop frêle, trop petit. Il a été refusé par l'aviation. Il réussit à être incorporé dans l'armée en tant que conducteur de camion. Il ira sur le front à Verdun en 1916, mais voilà, il tombera malade et devra rentrer. Tout ça et bien d'autres choses savoureuses sont racontées dans cette bande dessinée, ou plutôt ce roman graphique.
Ah oui, ça a l'air magnifique. C'est sur europe1.fr, vous pouvez regarder
voilà.
La vidéo,
vous voyez
c'est
l'image,
magnifique.
Ravel, un imaginaire musical édité aux éditions du Seuil Delcourt. Les illustrations sont d'Alexis Cavaillez, les textes de Guillaume Métayer et du compositeur et musicologue Carole Beffa, qui livre notamment quelques analyses d'œuvres où on voit surgir vraiment le génie de Ravel.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Votre chronique aurait-elle séduit notre invitée Jeanne Chéral, qui est avec nous jusqu'à 18h. Et va quelques dates peut-être de tournée, car Jeanne Chéral sera en tournée dès novembre.
Alors, au hasard, hein, jeudi le 21 novembre, vous serez à Rouen, le 30 novembre, vous serez à Namur, évidemment à Paris, aux Folies Bergères, on l'a dit, le 3 décembre. Et puis le 25 janvier, à Nogent-sur-Marne, ou encore le 1er février, à Mésidon.
Vous avez l'embarras du choix. Jeanne Chéral est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe et sauvage continue 2 heures où les notions de solidarité, de cohésion d'équipe volent en éclats. Pulvérisé sur l'autel de la compétition, car à la fin, il n'en restera qu'un. Qui sera élu chroniqueur du jour ? C'est vous qui décidez. À suivre, le moment le plus attendu des fans d'Eva Rock, celui où elle affronte l'invité dans un quiz redoutable, à l'issue duquel elle s'exclame souvent.
Mais oui, moi j'ai rien compris.
Restez avec nous, ça va être savoureux.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, portée par la musique de générique la plus entêtante qu'on ait connue depuis Le Petit Bonhomme en Mousse. Chaque chroniqueur ressort de ce studio en fredonnant dans les couloirs d'Europe 1. Même ceux qui ont des thés dans Télérama. Eh oui. Et en régie, on va vite enlever la sympathique musique du Petit Bonhomme en Mousse, car notre invité est Jeanne Chéral, s'il vous plaît. Voilà. C'est mieux. Celle-ci aussi, elle est trop bien. Bon, bref, Jeanne Chéral, votre nouvel album L'An 40 est un véritable bijou, et je ne le dis pas tous les jours. Et la grande Sophie, c'est la BO de notre été.
Non, non.
Ah, oui.
Ah bah oui, mais ici, on ne dit que la vérité, on invite que les gens qu'on aime, de toute façon, c'est pas compliqué. Oui, bon, d'accord, je l'ai dit à la grande Sophie, mais c'est une amie, ça ne compte pas. Non, avec ma complice Eva, on a vraiment aimé cet album.
Ah, on a adoré, mais c'est vrai qu'on invite que les gens qu'on aime bien en plus.
Oui, c'est vrai, c'est pas fou.
Ouais, ouais.
Sur la pochette de cet album, vous apparaissez sans artifice, pas maquillé, en débardeur noir, un bras relevé. Alors, aisselle épilée ou pas, on ne sait pas, parce qu'il y a deux versions qui circulent. Hein. Sur la pochette,
bon
oui, sur la pochette de l'album, c'est naturel. Et on a une version, il y a une veste.
Une veste ?
Oui.
Ouais, mais ça, c'est une version...
Une version peut-être pour le marché américain, je ne sais pas.
Peut-être pour les mormons.
Pour les mormons.
Non, une aisselle non épilée.
Et c'est vous qui avez décidé ça ou c'est
bien sûr, j'allais pas déléguer ce genre de choix.
Un message.
Le message, c'est vraiment que je me suis sentie tellement libre en faisant ce disque.
Vous parliez tout à l'heure de mon intro piano. Qui se permet ça ? Et effectivement, je me suis sentie super libre et j'ai été au bout de ce sentiment-là, y compris sur l'image. Quoi. J'étais comme ça le jour de la photo, j'étais pas nickel. Et la beauté d'une femme, c'est ça aussi. C'est pas forcément être nickel, être bien maquillée, être super épilée. C'est important, je trouve, de dire ça aujourd'hui en plus, de sortir un petit peu de dictates qui sont censés s'imposer par la presse féminine. On est en train d'en sortir en ce moment, je trouve ça super et je trouve important de célébrer ça aussi, de célébrer l'imperfection.
Vous avez bien raison. En parlant d'imperfection, non, c'est dégueulasse cette transition. Je ne ferai pas de transition. Face à vous, Jeanne, je sens que vous la voyez trépigner d'impatience.
Vous allez vous retrouver tout seul avant la fin de la saison, je vous le dis.
Une femme se dresse. Elle s'appelle Eva Rock et sa nouvelle passion dans la vie est de défier nos invités sur un quiz. Voici qui veut gagner une banane, Mathieu Béliard. Qui est le présentateur Mathieu Béliard de la matinale d'Europe 1, 6h-9h tous les jours. Jeanne Gérald, en hommage à votre album L'An 40, on a thématisé ce vrai-faux sur le chiffre 40. Vous répondez chacune votre tour, chaque bonne réponse vaut un point. Jeanne Gérald, le chanteur Carlos est né en 1940. Il a eu 40 disques d'or et sa mère Françoise Dolto a publié 40 livres. Vrai ou faux ?
Alors tout est vrai ou tout est faux ?
Exactement.
Ah bah tout est vrai.
Tout est faux. Il est né en 46 et sa mère a publié 31 livres. C'est dégueulasse de commencer par une question de vache, je vous l'ai déjà dit.
Et combien de disques d'or ?
C'est pas précisé. Mais il a dû en avoir un sacré.
Il aurait dû mettre la puce à l'oreille, 40 disques d'or.
Ça fait un peu beaucoup pour Carlos, c'est ça quoi ?
Non mais je sais pas. J'ai déconné là. Je commence
Carlos,
mal.
Carlos, si tu nous écoutes. Eva Rock, l'aigle royal en captivité peut vivre jusqu'à 40 ans. Vrai ou faux ?
L'aigle royal en captivité ?
Oui, en captivité, parce que dans la nature, il se fait niaquer. On ne sait pas par qui d'ailleurs.
Ben, je dirais oui.
Vous diriez oui, c'est faux parce qu'il peut aller jusqu'à 50 ans.
Ah bon ?
Eh oui, c'est le corbeau qui peut vivre jusqu'à 40 ans, Eva.
C'est tordu ces questions.
C'est
merci,
tordu. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui les conçois. Et si vous connaissiez l'esprit pervers qui accouche de ces questions, vous comprendrez
mieux. Je ne préfère pas savoir qui.
Il s'appelle Sébastien Bordenave. Attention, vous répondez ensemble une question, trois propositions. Rodriguez Hernandez est vénézuélien. Il est officiellement l'homme qui a les plus grands pieds du monde en centimètres. Mais attention, 1. Ses pieds mesurent 39 cm, presque 40. 2. Il chaussait du 40 à 12 ans. Ou 3. Son pied gauche fait 40,1 cm et son pied droit 39,6 cm.
Je dirais 2.
Il chaussait du 40 à 12 ans.
Ouais.
Moi j'aime bien l'histoire des pieds qui sont pas à la même longueur.
Les pieds asymétriques.
Oui, asymétriques.
Réponse 3 effectivement. Il fait du 59 en taille de chaussure pied gauche, 40,1 cm et son pied droit mesure 39,6 cm. Il est donc asymétrique des pieds comme on dit dans le petit jargon orthopédique. Il s'appelle Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Même principe, une question, trois propositions. Je vous présente Dale Webster. Le 29 décembre 2015, ce Californien est entré dans le Guinness Book. Il a fait tous les jours la même chose pendant 40 ans. Mais quoi ? 1. Il a surfé tous les jours pendant 40 ans. 2. Il a offert un collier de fleurs à sa femme pendant 40 ans, tous les jours. Ou 3. Il a mangé au moins un tacos.
Pendant 40 ans,
c'est
tous
ça
les
qui
jours.
Est intéressant.
Ah oui. Jeanne Chéral, vous dites
oh,
quoi
bah moi, je penche pour le collier de fleurs.
Le collier de fleurs, Eva Rock.
Le tacos.
Le tacos. Mais non, mais vous êtes trop romantique. Il a commencé à surfer le 3 septembre 75, au moins 3 vagues par jour.
Ah
même
bon
quand il pleuvait, même pendant la tempête, et même quand il y avait des requins. Ça aussi, moi, je l'ai déjà fait. Il surfait à Bodega Bay, au nord de la Californie. Dale a une femme et une fille qui ont parfois surfé à ses côtés. Il a déclaré que ce record l'a empêché d'aller rendre visite à sa belle famille qui habite l'Utah. Son record, 14 641 jours de surf.
Oh, ah oui, il s'était mis un défi, c'est-à-dire je ne...
Et pour la première fois de l'histoire d'Europe 1, Eva Rock remporte un quiz.
Ah oui,
je soupçonne Jeanne Gérald de l'avoir laissé gagner.
Non,
vous
c'est
avez,
pas vrai.
Vous avez perdu.
J'ai enfin, zéro.
Vous avez zéro. Du coup, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est Eva qui remporte la banane, Mathieu Béliard.
Et, oui.
Et ça, c'est quand même une bonne chose.
Je suis très contente.
J'aurais été très gênée.
Merci de repartir avec. Merci Jeanne.
Nous fêtons ensemble la sortie de son nouvel album la semaine prochaine. Elle s'apprête à partir en tournée début novembre. Jeanne Gérald est avec nous jusqu'à 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le premier championnat journalistique du monde. Deux heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous l'œil de notre invité arbitre. C'est Jeanne Chéral qui nous accompagne aujourd'hui pour la sortie la semaine prochaine de son nouvel album, L'An 40. Et sur cet album, on trouve...
Fausse parisienne, exilée de ta plaine, que fais-tu donc ici ? Cette ville te malmène et te fout la migraine, toi l'enfant du pays.
Fausse parisienne, ce qui tombe vraiment à pic ce titre Jeanne Chéral, car notre invité actu du jour va nous expliquer qu'il n'y a pas de vraie parisienne. Dans quelques jours, la Fashion Week débute à Paris, une série de défilés au cours duquel la presse internationale va célébrer la femme française, chic, élégante, parfaitement maquillée. Bref, la parisienne, Une journaliste de mode franco-britannique sort du lot et s'écrit « Non, je ne suis pas parisienne ». Elle en a fait un livre publié chez Soc. Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Vous écrivez que la parisienne est un animal légendaire, une licorne. Mais pourquoi, moi j'en croise tous les jours des parisiennes dans la rue.
Alors est-ce qu'elle ressemble à celle que vous avez vue dans les publicités d'Eurostar?
Jamais.
Jamais.
Jamais, effectivement.
Il y a quand même un espace énorme entre celle qu'on voit tous les jours dans la rue et puis celle qu'on vend au restant du monde. Donc c'est toujours des femmes qu'on voit qui sont kilométriques, qui ne prennent pas un gramme, qui ont des enfants qui sont parfaitement sages, qui ne grossissent pas, qui ne vieillissent pas, qui n'ont pas besoin de dormir. Donc non, c'est celle qu'on nous montre, je la cherche encore.
Alors la genèse de ce livre, c'est une expérience personnelle qui est assez drôle. Début des années 2000, après une adolescence faite de liberté, de gras décomplexé, de pinte de bière de l'autre côté de la Manche, vous fêtez votre retour à Paris dans une brasserie à la gare du Nord et le serveur ose vous dire « Vous n'allez pas reprendre des frites quand même ?»
Si, si, en se tapotant sur les hanches pour me montrer où les frites allaient finir.
Ah,
oui, oui.
Quelle finesse.
Tout
c'est
à fait.
La classe à la française aussi.
C'est une proximité qu'on n'a que en France, effectivement.
Qu'est-ce qui vous gêne dans ce mythe de la parisienne, du coup?
Mais c'est qu'il n'existe pas. Enfin, le mythe existe, mais cette femme n'existe pas.
Inutilement.
Je pense qu'il y a une image d'une femme qu'on nous montre partout. Il y a même des cours à la Sorbonne qui nous apprennent à être mieux parisienne. Il y a des tutoriels, entre grosses guillemets, sur Internet. Il y a des livres, il y a des manuels, des collections de vêtements qui nous promettent de nous rendre parisienne. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai été à l'école à Paris jusqu'à mes 15 ans, avant que je parte en Angleterre. Et je la cherche toujours. Alors, je me suis toujours dit, si même moi, en tant qu'à peu près parisienne, je ne m'y retrouve pas, que je ne sais pas qui s'y retrouve.
Ce qui est à Paris, surtout, c'est le regard de l'autre. Et on se dit toujours comment je m'habille, est-ce que ça va, est-ce que ça passe. Même maintenant pour les hommes un peu, mais surtout pour les femmes. C'est vrai que moi qui ai vécu à Londres aussi comme vous, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire dans la société anglo-saxonne, enfin surtout à Londres, on s'habille vraiment.
Pas du tout.
On croise des gens qui s'habillent, mais de manière complètement excentrique
ouais.
Et personne ne va s'arrêter sur eux dans la rue et les juger.
Il n'y a pas du tout cette proximité. Je pense que vu qu'on est un pays plus latin, on se permet une proximité qui n'aurait pas du tout en Angleterre. Donc c'était, pour moi, c'était quelque chose qui était très brutal quand je suis revenue. Et j'ai appris à m'assagir au fil des années, mais je n'ai pas vraiment eu le choix en fait.
Vous attaquez aussi à la grossophobie parisienne et le fait que dans la mode française, beaucoup de tailles s'arrêtent au 42. C'est typiquement français ça? On ne retrouve pas ça ailleurs?
Ah bah déjà, les tailles, ce qu'on appelle le 36 en France, c'est de l'extra small dans tous les autres pays. Non, c'est sûr qu'il y a un régime caché, mais qui est pas avoué. Mais il y a des livres entiers qui sont sortis qui s'appellent Why French Women Don't Get Fat, par exemple. Alors, je ne sais pas si on a des gènes particulièrement
pourquoi
différents.
Pourquoi les femmes françaises ne deviennent jamais grosses?
D'où vient cette femme miraculeuse? Ouais. Moi, je connais toujours pas une femme qui est complètement exemptée des calories et du temps qui passe, etc. Non, je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Ça fait plus de mal parce que la plupart des femmes se disent « Ouh là là, moi, je ne vais jamais rentrer dedans bah, », comme votre chanson, d'ailleurs. C'est-à-dire, on a l'impression d'être une fausse, même quand on y vit, même quand on y a grandi.
Eva Rock, je sens que vous avez un témoignage à apporter.
Non, pas du tout. C'est ce que j'ai demandé à Jeanne Chiral. Elle ressemble à quoi, votre parisienne, Jeanne?
Celle de la chanson?
Oui.
Bah, celle de la chanson, c'est clairement moi. C'était une... je me retrouve vraiment dans ce que vous dites, dans le fait de jamais se sentir tout à fait. Mais au bout d'un moment, il faut le revendiquer, ça aussi, je pense. Ça, au bout d'un moment, il faut en faire une force. Le fait de se dire, on parlait il y a très peu de temps des diktats qu'on nous impose dans la presse féminine, dans la société en général. Et il faut sûrement redéfinir ce que c'est d'être parisienne. Et il y a autant de façons que d'individus, quoi. Je pense que votre livre, il va sûrement dans cette direction-là.
Oui, tout à fait.
J'ai l'impression.
Et puis aussi de se dire, on a le droit de revendiquer de ne pas être Paris du tout et d'en être très content.
Exactement.
Et où sont les Marseillaises? Où sont les Rénoises? Où sont les Malakoffiottes?
D'ailleurs, les Malakoffiottes.
Je suis Malakoffiotte d'ailleurs, tout à fait.
Et les hommes dans tout ça? Est-ce qu'on est jugé aussi en permanence comme ça? Est-ce que l'homme parisien...
Alors il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'en Angleterre, mes copines me demandaient toujours la même phrase, « Is he French or is he gay ?»
Est-il français ou est-il gay?
Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme français, ou non, l'homme parisien, a beaucoup moins peur de faire, entre guillemets, gay, que de faire, également, entre guillemets, beauf. Donc il y a une plus grande hantise de classe qu'une hantise sexuelle.
Je vous confirme.
Et tout ça raconte un mépris de classe qui est quand même terrible.
C'est vrai, c'est terrible. C'est vrai, c'est vrai.
Donc ce serait une sophistication.
C'est ce qu'on appelle, on avait un terme pour ça, les métrosexuels.
Ouais. Métrosexuels, c'est ça. Donc ce serait une sophistication qui montrerait combien on est intellectuel et merveilleux et combien on descend de Louis XIV, j'imagine. mais ce qui met mal tous les autres hommes qui n'ont pas forcément envie de s'en bijouter.
Merci beaucoup, Alice Pfeiffer. Votre
Bravo.
Livre, Je ne suis pas parisienne, sort aujourd'hui chez Stock. Et justement, c'est une.
Fausse parisienne.
Qui passe l'après-midi avec nous sur Europe 1. Son nouvel album L'An 40 sort la semaine prochaine. Elle part ensuite en tournée dans toute la France. Jeanne Chéral est notre invitée.
Europe 1.
Vous écoutez l'Équipée sauvage, deux heures d'une féroce compétition opposant les plus valeureux journalistes d'Europe 1 dans l'arène survoltée du studio Coluche. Qui vous livrera la meilleure histoire, la meilleure info ? Dans quelques instants, deux nouveaux concurrents entreront en piste au programme les Ig Nobel. Ces Nobel qui récompensent les découvertes les plus saugrenues. Et visite guidée aussi du salon du mariage. Avec cette bonne nouvelle pour vous Eva, les statistiques sont formelles, les rencontres en ligne durent de plus en plus longtemps. Ben non pas, si on vous le dit, faut y croire un peu Eva, faut vous battre, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures d'une compétition à l'image des baroques, à la fois sérieuse et folle dingue. Ça va Eva, vous tenez le coup ?
Je crois que je vais avoir besoin d'un café, je suis en train de tout tomber.
Oui, c'est vrai qu'on a, on a parlé en antenne, on a des grosses journées. Mais le plus dur, c'est pour les journalistes en compétition. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil complice, mais je le sens intransigeant. De notre invité arbitre, Jeanne Chéral, venue nous présenter son nouvel album, L'An 40, qui sort la semaine prochaine. On continue d'en parler ensemble, Jeanne, mais laissez-moi vous présenter deux nouveaux concurrents. À ma gauche, notre expert éco, Axel de Tarlé, dit Axelou la débrouille. Dont je me disais aussi l'autre jour, comment il a fait, entre ses interventions dans la matinale, chez nous et son autre job à la télé, comment il a fait donc pour lire les 2200 pages du dernier bouquin de Piketty et nous les restituer avec tant de brio. Quelqu'un lui aurait-il fait une fiche ? À l'antenne, il a nié, mais hors antenne, il a bien dû reconnaître l'évidence. Déjà, les avez-vous lus, parce que je vous connais.
Est-ce que je l'ai lu ? Non.
C'est embarrassant. Axel, aujourd'hui, vous nous parlez du salon du mariage. Vous y êtes allé ou pas ?
Ah bah non, moi je l'ai déjà fait, j'ai l'alliance.
Et en plus, je vais vous expliquer que ça sert à rien, le salon du mariage.
Super.
Ben non, parce qu'en fait, les mariages sur Internet sont plus heureux et plus durables que les mariages dans la vie réelle.
C'est vrai ?
Oui, il vaut mieux rencontrer sa moitié sur Internet.
Je vous l'ai dit, Eva.
Non,
je vous
ne me regardez pas.
Et je vais vous le prouver.
À ses côtés, Jeanne Chéral, je vous présente un être venu d'ailleurs. Alain Siroux est notre consultant scientifique. À ses heures perdues, il dirige la revue Ciel et Espace. Un esprit sublime à la vivacité épatante et surtout d'une logique implacable, comme il nous l'a prouvé lors de sa dernière intervention en s'exclamant, je cite...
Et oui, d'autant que la science passionne les scientifiques.
Ça va mieux, Alain ?
Oui, ça va très bien,
merci. Vous
avez
pris vos petites pilules ? De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Alain ?
Ben, des scientifiques qui sont passionnés par la science loufoque.
Ah, loufoque.
Non, et en particulier, il va y avoir demain soir aux États-Unis la plus grande cérémonie que vous pouvez imaginer. Elle est internationale, Axel. Ce qu'on appelle les ignobles Nobel, et je vais vous parler des résultats de ces Nobel extraordinaires et loufoques.
Quelle chronique préférez-vous ? Laquelle aura la faveur de notre invité Jeanne Chéral ? Chère Jeanne, vous êtes de retour avec L'An 40, un album sublime, l'ai-je dit, avec même une chorale gospel. C'est vraiment pour nous à Europe 1 un très gros coup de cœur, Eva.
Oui,
vous confirmez.
En plus, cette chanson Racine. Et cette chorale gospel, vous l'avez trouvée où ? Aux États-Unis, c'est ça ?
Ouais, c'est une chorale californienne. J'ai enregistré une bonne partie de l'album à Los Angeles. Et on a enregistré en une journée voilà, les trois morceaux que j'avais imaginés. Voilà, j'arrivais avec mes petites partitions. Mais c'est des chanteurs très inspirés, quoi. Ils étaient 8, 4 hommes et 4 femmes. Et on était dans un studio en plus qui ressemblait un peu à une chapelle, enfin avec des pierres apparentes comme ça. C'était, je me suis un peu écroulée à la fin de la journée de surcharge émotionnelle en fait. C'était dense.
Jeanne Chéral, vous êtes vraiment une artiste surprenante. Et en parcourant votre CV, j'ai encore été surpris puisque vous avez composé pour d'autres. Et alors moi, cliché, bon, je me dis Jeanne Chéral qui collabore avec Thomas Fersen, ok, ça cadre. Benjamin Biolay évidemment, Camille, Émile Loiseau, ok. Mais aussi Johnny Hallyday.
Ouais.
Mais ah ouais, sur l'album Restez vivant, c'est vous qui avez composé la chanson Un dimanche de janvier.
Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense.
Cette chanson qui évoque l'immense manifestation après les attentats de Charlie et de l'hypercacher, c'était
ouais,
une
la
commande
marche du 11 janvier.
Ou c'était une commande qui vous est venue de Johnny Hallyday ? Comment ça s'est passé ? Qui a eu l'idée de cette chanson ?
En fait, je faisais des chansons avec Yodelis, Maxime.
Qui travaillait lui-même avec Johnny Hallyday.
On en faisait pour Johnny Hallyday et il se trouve qu'on avait un peu les coudées libres pour écrire un peu sur ce qu'on avait envie d'écrire. Et il se trouve que le seul sujet que Johnny a imposé, c'était la marche du 11 janvier. Il avait très envie de chanter quelque chose là-dessus. Il n'était pas présent au moment de la marche, mais il était très très touché par les événements, par les attentats et par la ferveur en fait de cette marche qu'on a tous vécue, quoi. Et donc voilà, j'ai fait ce texte. C'est venu assez vite et j'étais super heureuse, quoi.
Mais c'est étonnant parce que c'est des univers très différents, Johnny Hallyday, Jeanne Chéral, et pourtant l'inspiration est venue facilement.
Bah, c'est hyper excitant.
Il est hyper inspirant.
Ah mais hyper inspirant. Enfin d'écrire pour un interprète qui a cette histoire-là. Enfin symboliquement, il est génial, quoi. Donc moi ça m'a tellement excité de faire ça.
Alors, nous, vous l'aurez compris, hein, puisque l'émission du jour pourrait être rebaptisée l'équipée flagorneuse, on adore Jeanne Chéral, on est tombé en amour avec son dernier album, comme on dit au Québec, mais vous, que vous évoque Jeanne Chéral, on est allé à votre rencontre dans la rue. Alors, c'est pas un micro-trottoir, toujours monté de sorte à flatter l'ego de l'invité, c'est un micro-trottrash, c'est comme un micro-trottoir, mais sans montage, on a tout laissé.
Wow. Jeanne Chéral.
Elle a de la présence sur scène, c'est top.
Je ne sais pas à quoi elle ressemble, j'ai déjà entendu sa voix.
Jeanne Chéral, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est une femme qui s'impose, c'est bien, moi j'aime bien.
Ah, mais oui, Jeanne Chéral, mais oui, mais voilà, c'est la descendante de Jeanne d'Arc.
Quelqu'un qui crie bien, quoi, c'est pas, ça a du sens quand elle chante pas.
C'est de la chanson française.
Chanteuse française, c'est-à-dire quoi? Ouais, Céline Dion, en mode, ouais, je connais rien. Attends, non, il y avait, celle qui, attends... Dalida, truc comme ça.
Auteur, compositeur, chanteuse. Donc voilà, une artiste, quoi.
Jeanne Chéral, la filiation avec Dalida, c'est quelque chose d'important pour vous,
Dalida,
je pense.
Avec Dalida et avec Jeanne d'Arc. C'est vraiment c'est deux figures pour
vous
moi.
Vous êtes le mix des deux, finalement,
voilà,
on peut
exactement.
Le dire. Plus sérieusement, Jeanne Chéral, quelles sont vos muses? Véronique Sanson?
Oh bah des muses, genre...
Barbara.
Ouais, forcément, c'est des femmes tellement inspirantes, tellement entières. Enfin, moi, les femmes qui m'inspirent, c'est les femmes libres, et libres et inventives. Enfin, je sais pas, Christiane Taubira m'inspire, la journaliste Lorraine Bastide.
J'ai même pas eu besoin de poser la question politique. Pam, Jeanne Chéral, elle nous dit déjà pour qui elle voterait.
Voilà,
ça, c'est bien.
J'ai des icônes qui me viennent là. Je pense à Lorraine Bastide, je pense à Patti Smith, Annie Ernaux. Et puis dans la musique, effectivement, j'adore Barbara, j'adore Sanson, j'adore Camille, j'adore Fiona Apple.
Ah, Fiona Apple, ouais. Vous vous dites que vous avez toujours gardé son album quand vous composez. Elle
ouais,
est jamais
bah loin. En fait, c'est les deux batteurs qui jouent sur son disque culte, When the Pound, qui est sorti il y a 20 ans, sont les deux batteurs de mon disque. Enfin, je tenais
à.
Voilà,
c'est
Jim Keltner.
Simplicité.
Mais ouais, non, mais pour moi, c'est un cadeau du ciel, quoi. Jim Keltner et Matt Chamberlain, sur lesquels je fantasmais depuis bien des années.
Ne nous en dites pas plus, votre mari nous écoute. L'an 40, c'est le titre de son nouvel album, dont je crois avoir dit qu'il était merveilleux, mais je ne suis plus très sûr, je le redis, il est merveilleux. Eva, quelques dates de tournée.
Ouais, parce qu'il faut surtout venir vous voir sur scène parce que voilà, en plus vous êtes très drôle sur scène et toutes les dates elles sont à retrouver sur le site internet europe1.fr. On va vous les mettre sur Twitter aussi, mais ça commence le 7 novembre et ça va au moins déjà jusqu'au 12 mai. Il y a des dates partout en France.
Jeanne Chéral est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue sur Europe 1 avec Eva Roque, Alain Siroux, Axel de Tarlé. Deux heures d'un subtil mélange d'intelligence et de blagues potaches. Pour l'intelligence, Bibi, évidemment. Pour le potache, voyez avec la Jean Roucas de la Baie des Anges. Eva Roque, particulièrement en verve hier face à Manu Payet, dont l'affiche où on le voit un peu dénudé l'avait copieusement excité.
Il n'y a pas de retouche, hein.
Donc il y a des poils dessus.
C'est l'affiche que je voulais faire pour mon premier spectacle.
On vous l'avait refusé?
Non, j'ai pas eu les couilles.
Là, on les voit pas non plus en même temps.
J'espère que face à Jeanne Chéral, vous ne tomberez pas dans les mêmes travers. Eva, un peu de tenue à suivre. Trouvera-t-on enfin un mec à Eva Roque? Peut-être dans les travées du salon du mariage. On vous dit tout, des nouvelles tendances pour ceux qui veulent préparer le plus beau jour de leur vie. À tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue avec Eva Roque, Axel de Tarlé, Alain Siroux. Deux heures d'un combat épique entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui sera élu tout à l'heure chroniqueur du jour? Tout simplement celui ou celle qui, à vos yeux, aura proposé le meilleur sujet, la meilleure info, celle dont vous aurez envie de parler ce soir à table avec vos proches. Et celui aussi qui aura tapé dans l'œil de notre invité, Jeanne Chéral, qui nous présente aujourd'hui son nouvel album, L'An 40.
Le ciel est rouge et l'air est doux, la terre est meuble sous mes pieds, comme si on l'avait retourné.
Ton souvenir me prend ce soir, extrait du nouvel album. Alors personnellement, je ne m'en lasse pas, hein. je l'avoue, j'ai une véritable passion pour Jeanne Chéral, à tel point que j'ai envoyé un de nos journalistes en éclaireur au salon du mariage pour me renseigner. On ne sait jamais.
J'ai mal entendu.
J'ai l'impression, en lisant votre bio, que quelqu'un était en plus plus rapide que moi, mais permettez-moi de rêver. Ne m'empêchez pas de rêver, Jeanne. Axel de Tarlé, alors, quoi de neuf sur le front du mariage? C'est les applications hein, qui sont en train de changer.
Oui, d'abord, pour gagner ce concours, j'ai réalisé que plutôt que parler d'économie, il valait mieux parler de sexe et de relations
amoureuses. Ça, c'est une bonne déduction.
Voilà. Et donc, j'ai décidé de me saisir de ce salon du mariage pour vous parler du succès des applications en ligne, alors grâce à une étude. Alors, ce n'est pas une étude des sites de rencontres amoureuses, c'est une étude très sérieuse de Chicago et de l'Université d'Essex en Royaume-Uni qui montre que les mariages qui sont nés sur Internet, entre deux personnes qui sont rencontrées sur Internet, ont 25% de chances d'être plus durables et d'être plus heureux que les mariages de personnes qui se sont rencontrées au hasard dans
la rue.
Mais
oui, parce qu'on a coché ce qu'on aimait. Et donc, on rencontre des gens qui sont triés déjà. Ils ont les mêmes passions que nous. Par exemple, je mets « J'aime Jeanne Chéral ». Et hop, je rencontre une fille qui aime Jeanne Chéral. Et forcément, après, on écoute Jeanne Chéral ensemble et on s'aime.
Eh bien, vous avez tout à fait raison, c'est ça.
Évidemment.
C'est ça, c'est-à-dire que sur Internet, on se décrit, on est obligé de réfléchir un peu sur soi. On est un peu obligé de dire qui on est, ce qu'on cherche. Alors que dans la vraie vie de tous les jours, quel est le critère numéro un ?
Ah non.
Pour le physique,
le physique.
C'est l'odeur. Mais vraiment.
Et alors, non, mais simplement c'est... parce que quelqu'un vraiment... sent mauvais, on va passer à côté
mais non,
de l'amour
mais
de
c'est
sa
l'instinct,
vie.
L'animalité. Oui. Ça peut pas se jouer dans une appli quand même.
Vous n'êtes pas convaincu par mon analyse.
Pour l'instant, pas vraiment.
Par mon étude.
Continuez quand même. Voilà.
Et l'Internet a une deuxième vertu, c'est que l'algorithme va chercher dans un vivier bien plus large. Donc on va avoir des mariages
vivier,
d'ailleurs.
C'est terrible ce terme.
Ben, on va avoir des mariages plus divers. Il y a plus de mariages mixtes. Par exemple sur Internet, et ou d'origines différentes. Les gens vont moins se ressembler.
Ah, on sort de son milieu social.
Et oui, parce que sinon, c'est le physique. Et puis, tiens, s'il a des bouts qui ne vont pas, bah, j'aime pas. Donc, boum, on blacklist. Et on peut passer à côté de l'amour de sa vie ainsi. Et donc, voilà, je fais une petite publicité pour les sites de rencontres. Alors, à votre avis, comment les mariages se font-ils en numéro 1 aux États-Unis ? Numéro 1, c'est Internet. 39% des couples mariés se sont rencontrés sur Internet. Numéro 2,
Les bars.
Bravo.
Ah, Eva.
Numéro 3, c'était l'ancien numéro 1 d'il y a 20 ans.
Les chasseurs français, enfin le.
Non, les amis.
Aux États-Unis. Alors, si aux États-Unis, Eva, on se rend compte grâce aux chasseurs français, c'est vraiment que le monde tourne.
Numéro 3, c'est l'odeur, je suis désolée.
Et numéro 4, c'est une rencontre sur le lieu de travail. Voilà.
Il y a pas
un couple sur 10 qui s'est rencontré sur le lieu de travail.
Eva, regardez-moi.
Oui.
Je ne sais pas.
On aurait déjà consommé si ça avait été le cas.
Certainement. Axel de Tarlé, seul moyen de vous déstabiliser. La question vache de l'autre chroniqueur, Alain Giroux, vous qui connaissez bien Tinder.
Oui. Combien de mariages en France, Axel, finissent par un divorce ?
Wow, merci Alain. Parce que c'est moi qui lui ai suggéré cette question vache juste avant.
Ah,
pendant
c'est faux. Vous n'avez pas le droit.
On lui met d'accord. Cette question, je connais la
cuisine
réponse.
Interne non, c'est faux.
235 000. Mais moi, j'ai une vraie question vache pour
non,
toi.
Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Combien de mariages finissent en divorce en France ?
Ah,
et
oui.
Là,
il a répondu à la question.
Vous n'avez pas enquêté suffisamment profondément.
Je
ne
sais pas, c'est quoi. On dit que la moitié des mariages au bout de 5 ans.
On dit mariage plus vieux, mariage heureux.
Ouais, voilà. 45%, on ne peut pas vous aider, Axel.
45% des mariages finissent en divorce quelques années après en France aujourd'hui.
Moins sur Internet. C'était le sens
mais
de ma
normal,
démonstration.
C'est normal, on vit tellement longtemps.
Ouais. On peut le voir aussi comme ça, c'est une excuse qu'on peut se trouver. Son album sort la semaine prochaine, il s'intitule L'an 40. Jeanne Chéral passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Roque, Axel de Tarlé, Alain Giroux sont à mes côtés. L'équipe est sauvage se poursuit. La grande battle des journalistes d'Europe 1, à côté de laquelle le film Reservoir Dogs fait figure de gentil Disney de Noël. Au programme, coup bas entre collègues, vol de clés USB, tentative d'empoisonnement à la cantine. À moins que ça ne soit juste le menu habituel de la cantine, c'est vrai que c'est pas terrible. Bref, à suivre, on tentera de résoudre un mystère. Qui laisse des messages à la craie dans les rues de Toulouse depuis quelques semaines ? Pourquoi ? Quel est son but ? Axel de Tarlé, une idée ?
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Oui, non, oui.
Nous avons affaire à un serial killer.
Oui, on a.
Serial killer.
On a compris l'idée. On filera retrouver notre correspondant à Toulouse pour essayer de tirer ça au clair.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une compétition irrespirable entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se défient à coups de chronique sous l'œil de notre invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est Jeanne Chéral qui nous accompagne pour la sortie la semaine prochaine de son nouvel album, L'An 40. Vous partez en tournée dans toute la France début novembre. Cette tournée passe-t-elle par Toulouse ?
Oui.
Ça tombe bien. Vous allez voir, il se passe de drôles de choses à Toulouse. Depuis quelques semaines, un individu grave à la craie sur les rues des noms de plantes. Qui est cet individu ? Les plus folles hypothèses circulent à son sujet.
In my opinion, I am sure. Mais alors, I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
Pour en savoir plus, je propose qu'on prenne la direction de Toulouse où nous attend notre correspondant Benjamin Péter. Bonjour Benjamin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Benjamin, vous avez enquêté et vous avez retrouvé le mystérieux auteur de ces messages.
Et oui, vous l'imaginez, il a fallu la mobilisation de tout le service police-justice pour remonter la piste en suivant ces inscriptions énigmatiques
emblématique à la craie qui désignait là un micocoulier de Provence, ou là des bardanes en bordure du trottoir. Et j'ai fini au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. C'est là que travaille Boris Pressec. Il est botaniste et c'est lui le responsable de cette démarche à la fois poétique et pédagogique. Avec un de ses collègues, ils ont décidé de recenser les plantes qui poussaient dans Toulouse et d'en faire profiter les habitants.
On voit souvent marqué sur les trottoirs ou sur les routes payants pour le stationnement, les traces EDF, les traces de la voirie, etc. Et puis on s'est dit, bon, ce serait bien d'avoir quelque chose d'intéressant marqué sur les trottoirs. On voulait montrer que même en ville, il y a des espèces sauvages qui méritent toute notre attention, qui ont déjà le mérite de pousser sur ces endroits très perturbés et qu'on voulait faire partager, qu'on veut faire partager.
Alors justement, Benjamin, qu'est-ce qu'on trouve dans les rues autour de nous ?
Eh bien, à Toulouse, ils ont recensé pas moins de 800 espèces sauvages différentes. Ah bon ? Ouais. Et ce ne sont pas des mauvaises herbes, contrairement à ce qu'on croit parfois. Elles ont toutes une utilité.
Quasiment toutes les plantes qu'on croise ont une utilité pour notre espèce. On peut les manger, on peut s'en servir comme plante tectoriale, comme plante médicinale, comme textile. Donc par exemple, là, on a vu du pourpier maraîcher qu'on trouve en abondance ici sur les trottoirs, qu'on pourrait consommer. Hein. S'il n'y avait pas les déjections canines, des trucs comme ça, on pourrait les consommer. Mais on peut avoir aussi, il y a de l'ortie, il y a du plantain, il y a des salades, hein, de la laitue, du laiteron, tout ça sont des plantes qui sont comestibles.
Et d'autres sont des antihistaminiques ou des antidouleurs très efficaces.
Et cette flore des villes, est-ce qu'elle évolue d'année en année ou c'est toujours la même ?
Eh ben c'est en fait le but, hein, ce recensement scientifique, parce qu'effectivement, la végétation, elle n'est pas la même qu'il y a 100 ou 200 ans. Alors, il y a le réchauffement climatique, mais surtout, toutes ces graines, elles voyagent beaucoup plus, transportées par les animaux, par nos vêtements aussi. Il y a une espèce, par exemple, qui s'appelle le concombre d'âne, qu'on trouve uniquement le long des voies ferrées. À chaque passage d'un train, en fait, des graines sont emportées un peu plus loin et elles parcourent comme ça des kilomètres. L'autre jour, il a aussi trouvé des plantes de tomates ou de pastèques, certainement un reste de repas qui a germé un peu plus loin.
C'est génial.
Et puis, il y a toutes ces espèces qui s'échappent en fait de nos jardins, ce qui fait que à peu près 20% de la flore en ville est d'origine exotique et c'est une part beaucoup plus grande qu'en milieu naturel.
Vous avez goûté le concombre d'âne, Benjamin ?
Alors, en fait, ce n'est pas exactement le concombre qu'on connaît. Hein.
Oui, j'imagine.
C'est une espèce, mais on l'appelle comme ça parce qu'il ressemble à un petit concombre. Et en fait, à chaque vibration, chaque fois que le train passe, il explose, les petites graines se posent souvent sur les roues et du coup elles vont pousser un peu plus loin.
Je vais vous offrir un petit concombre, Eva, à planter.
Dan, un concombre.
Évidemment, Dan. Ça pourra vous servir. Merci beaucoup, Benjamin Péter.
Merci à vous.
C'est notre correspondant à Toulouse. Son album, L'An 40, sort la semaine prochaine. Elle part ensuite en tournée dans la foulée. Jeanne Chéral nous fait l'honneur de nous accompagner jusqu'à 18h sur
Europe 1.
À suivre dans L'Équipée Sauvage, un petit pas pour Sirou, un grand pas pour la science. Nous prendrons la direction de l'université d'Harvard. Petit pincement au cœur pour Eva, qui a étudié. Pour la remise, non pas des Nobel, qui récompensent les découvertes scientifiques qui servent à quelque chose, mais les Ig Nobel, ces découvertes qui ne servent à rien. Saviez-vous, par exemple, Jeanne Chéral, que le Viagra aide les hamsters à se remettre d'un décalage horaire ? Que la Tour Eiffel paraît plus petite ? Vous êtes pointu. Que la Tour Eiffel paraît plus petite si vous vous penchez sur la gauche et qu'un poulet avec un bâton lesté à l'arrière-train marche comme un dinosaure. Vous ne le saviez pas ? Restez avec nous, Alain Sirou arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures pour, à l'instar des jouets Play School, apprendre en s'amusant, détente et rigolade pour vous, stress de la compétition pour eux. Désormais, chaque après-midi, la fine fleur de la crème des journalistes d'Europe 1 s'affrontent pour le titre et surtout la magnifique couronne de chroniqueur du jour. Qui décrochera la timbale aujourd'hui ? Vous votez via Twitter. La voix de notre invité compte triple, la mienne compte pour 1. Sachant que mon choix est toujours extrêmement argumenté et basé vraiment sur la qualité du papier du journaliste, comme mercredi dernier. Je donne mon pan aujourd'hui à Alain Sirou, parce que j'adore Alain Sirou. Toujours très pointu comme jugement. Jeanne Chéral est notre invitée aujourd'hui pour fêter la sortie de son nouvel album L'An 40 la semaine prochaine. Et où pourra-t-on l'applaudir bientôt, Eva, s'il vous plaît ?
Mais il y en a plein de dates. Cherbourg, par exemple, le 12 décembre, ou Bordeaux, le 23 janvier. Vous êtes sûr de voir Jeanne Chéral à côté de chez vous le 5 mars à Enghien-les-Bains ou encore le 29 mars à Vannes, en Bretagne. Voilà, toutes les dates, elles sont à retrouver sur le site europe1.fr.
Sur cet album L'An 40, il y a... Tout à l'heure avec notre invité, on ne devient jamais vraiment tout à fait parisienne. On a tous des racines. Elles sont où vos racines à vous, Jeanne Chéral ?
Elles sont dans l'Ouest, dans le Grand Ouest.
Vous y revenez souvent ?
Pas très souvent, mais j'essaie quand même d'y aller régulièrement. Ma mère vit toujours dans ma maison d'enfance.
à Herbray. Donc, ouais, c'est, cette chanson Racine d'or parle vraiment de ça et parle un peu de mes ancêtres, enfin du fait d'être conscient d'où on vient, quoi, de savoir d'où on vient.
Vous avez fait 6 albums, si je ne m'abuse, mais vous avez une spécificité. Vous n'attendez pas d'avoir 11 titres complètement produits pour poster une chanson si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, si un fait de société aussi vous inspire. Je pense notamment à votre chanson pour les Pussy Riot ou celle sur l'avortement pour répondre au colonel Riel. Mmh. Internet, c'est un espace de liberté pour vous, un terrain de jeu que vous avez envie d'exploiter?
Oh bah oui. Oui, oui, ce type de chanson, c'est vraiment des chansons un peu épidermiques, quoi. Pour ça, c'est vrai que YouTube, c'est hyper bien.
Au printemps dernier, vous avez aussi signé une tribune avec plus de 1200 professionnels du secteur de la musique, FEMM, pour Femmes Engagées des Métiers de la Musique, qui appelait au changement de mentalité et des pratiques. Vous avez souffert, vous, du sexisme personnellement dans votre carrière, à un moment ou un autre ?
On n'a jamais envie de se poser comme une victime. C'est sûr, c'est pas un mot qui fait rêver, quoi. On n'a jamais envie de dire j'ai été victime de sexisme, mais mon milieu, il est évidemment pas épargné. Le fait d'être une femme dans des métiers du spectacle, c'est pas un handicap. Moi, je trouve que c'est une force, mais c'est une. Faut toujours en faire un petit peu plus, quoi. J'ai la chance de tourner avec une technicienne son, par exemple. Depuis 10 ans, maintenant, on travaille ensemble, et elle a une capacité à s'imposer. Enfin, elle est obligée d'en faire beaucoup, beaucoup plus que les hommes.
Mais c'est ça qui n'est pas normal. Il faudrait que tout le monde soit exactement au même niveau.
C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est, je pense que plus qu'une égalité, on revendique une équité. Une équité salariale, une équité dans la considération de notre métier. Je trouvais ça hyper important, en fait, de signer cette tribune.
Alors, Jeanne Chéral, on passe un beau moment. Si je vous dis, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Mais non ! Oh, ils sont cons, mais ma question, c'est pas ça, c'est est-ce que le soir, vous êtes du genre à vous affaler devant une bonne grosse série Netflix en 16 épisodes ?
Ah non, je fais pas ça.
Vous regardez pas la télé ?
Non, j'en ai pas.
Vous n'en avez pas ? Ça, c'est joli comme réponse. Eh bien, savez-vous, Jeanne Chéral, que selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix, pour ceux qui ont une télé connectée, ou de n'importe quelle plateforme, tellement le choix est immense. Alors, vous allez enfin comprendre à quoi sert Eva Rock, notre spécialiste média, car oui, Eva est une véritable mordue des séries.
Et des hommes nus.
Oui, mais là, on parle des séries. On est sur les séries. Là, voici 17 minutes de gagner. Alors, Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?
C'est une chronique un peu spéciale cet après-midi. Je vous propose d'aller du côté de YouTube pour découvrir une vidéo qui a été postée sur la chaîne du label Rhino. C'est un mini-documentaire dans lequel on découvre notamment Vince Wilburn et Erin Davis, respectivement le neveu et le fils de Miles Davis. Et il raconte comment en 1985 le trompettiste décide d'enregistrer un nouvel album. Alors à l'époque, Vince Wilburn est à Chicago, il a un groupe dans lequel joue également Randy Hall qui va devenir producteur par la suite, et tous les jours Miles Davis passe un coup de fil chez les parents de Vince, et la suite c'est Randy qui la raconte.
Ils avaient un cordon très long et ils tendaient jusque dans le sous-sol pour que Miles puisse nous écouter en train de jouer. Au bout d'un moment, on est devenu assez bon et Miles nous donnait des indications depuis le téléphone. Plus le temps passait, plus on devenait bon. À un moment donné, Miles nous a dit « Les gars, vous aimez bien, ça vous dirait de faire un album ?»
Et Miles Davis va s'entourer de ses jeunes musiciens et élabore un album qui est très funk, très soul. Et pourtant, l'opus ne va pas sortir, rangé dans un placard pendant 30 ans. Alors Miles a bien interprété quelques titres sur les scènes de Montreux ou à Paris notamment, mais rien dans les bacs. Jusqu'à la semaine dernière, Rhino, le label, a décidé en effet de sortir l'album qui s'appelle Rubber Band. 11 titres, alors qu'il y avait parfois besoin d'être complété ou en tout cas achevé. C'est ce qu'ont fait les producteurs originaux, donc notamment Randy Hall, en collaboration avec Vince Wilburn, qui est donc le neveu et batteur lors des sessions d'enregistrement en 1985. Une pochette à l'époque avait été envisagée, là aussi plus aucune trace, donc la maison de disques a choisi d'illustrer le disque avec une toile de Miles Davis, une toile colorée au ton rouge et jaune. Quant à l'album, eh bien, il est très très réussi, notamment avec l'apport de voix féminines comme celle de la chanteuse Lady Z qui pose ses mots sur la musique de Miles Davis, et ça donne ça. L'album s'appelle Rubber Band, je ne peux que vous le conseiller, Miles Davis. Et puis le mini-documentaire est à retrouver sur YouTube.
C'est un choix que je cautionne, Eva. Ouais. C'est pas tous les jours le cas.
Mais je sais bien.
Mais là, je le dis.
Je sais.
17 minutes de gagné. Merci infiniment, Eva.
Europe 1.
L'équipe est sauvage se poursuit et la compétition aussi. À suivre, un homme dont on ne sait pas très bien s'il est vraiment scientifique ou s'il fait juste très bien semblant de s'y connaître. C'est vrai que c'est parfois un peu étonnant.
Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire ?
Hier soir.
Alain Siroux, notre consultant scientifique, nous prouvera que les scientifiques aussi ont de l'humour avec les ignobles Nobel, les Nobel de l'absurde. Vous allez voir, ça déconne, ça carre.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures d'une lutte fratricide mérieuse entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour et verra son portrait accroché au fronton de la rédaction d'Europe 1 comme au bon vieux temps de l'Union soviétique. Pour les noter, vous bien sûr, mais également notre invité arbitre du jour, la formidable Jeanne Chéral. Votre nouvel album L'An 40 sort la semaine prochaine et vous partez en tournée dans la foulée début novembre. On continue d'en parler ensemble, mais pour l'heure, je vous présente notre ultime compétiteur du jour. Un journaliste à l'éthique admirable qui, lorsqu'il traite un sujet, n'hésite pas à payer de sa personne, comme mercredi dernier, lors de son enquête sur l'analyse scientifique du vin. Une enquête en profondeur, comme on dit.
C'est la deuxième importance de... Deuxième événement important de la semaine, c'est les foires au vin. Donc, évidemment, j'ai enquêté.
Alain Siroux, grâce à vous, on savait déjà que les scientifiques pouvaient être aussi de sacrés déconneurs. Et ça se confirme avec votre sujet du jour.
Oui, parce que je voudrais dire à Jeanne que faire de la science, c'est finalement rester un enfant. C'est poser des questions, c'est s'émerveiller, puis c'est rire. Et il y a une cérémonie dont je voulais vous parler qui a lieu demain soir aux États-Unis dans la prestigieuse université d'Harvard avec des vrais scientifiques, avec des vraies publications scientifiques. Mais c'est ce qu'on appelle la science improbable. C'est-à-dire, ça consiste à sortir ce qui est loufoque et les scientifiques disent ce qui fait d'abord rire, puis réfléchir. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Assez récents, il y a un Français qui l'a eu il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, le Ig Nobel, ignoble Nobel de physique, pour avoir posé la question suivante. Les chats sont-ils solides ou liquides ? Alors pourquoi il a posé cette question ? Parce qu'en fait, quand vous regardez un chat qui se couche, il peut adopter la forme particulière du récipient qu'il contient, vous voyez bien. Est-ce qu'il est liquide ou solide ? Et en fait, c'est une vraie question de science parce qu'il y a une science qui s'appelle la rhéologie qui étudie la déformation et l'écoulement de la matière en fonction des récipients. Donc ça, c'est un truc qui est rigolo, par exemple.
Et quelle réponse a été apportée, on le sait ?
Eh bien, c'est un peu quantique, c'est un peu des deux, mon capitaine.
Ah oui, d'accord.
Il y en a une que j'adore, c'est « Dans les zoos, les chimpanzés imitent les humains ». C'est une observation à peu près autant que les humains, les singes. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Il y en a une qui a fait l'objet d'une expérience extraordinaire, c'est « On nage à la même vitesse dans une piscine remplie d'eau que de sirop ».
Ouais. Que de sirop, maintenant, bah oui, c'est pas possible. Sirop. Le sirop, c'est, ça nous ralentit.
Si. Non, pas du tout.
Écoutez, je nage souvent dans ma piscine Tesser l'été, je peux vous confirmer.
Quelqu'un a essayé de faire ça ?
Absolument, c'est des vraies expériences, des publications scientifiques. Il y en a une qui est formidable aussi, mais c'est une observation sur les vaches qui portent un prénom produisent plus de lait que celles qui n'en ont pas.
Non, mais ça, c'est vérifié.
Oui, absolument. Ce sont des publications scientifiques. Et puis, alors, moi, il y a ma préférée. Que se passe-t-il quand un avion survole un troupeau de manchots en Antarctique ? Vous faites passer un avion au-dessus d'un troupeau de manchots. Si les manchots lèvent la tête, est-ce qu'ils culbutent en arrière ?
Manchot regarderait l'avion.
Eh ben, c'est par curiosité. Ils auraient pu le faire. Et ce qui est extraordinaire, bon, la question est drôle, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont fait l'expérience. C'est-à-dire qu'un groupe de scientifiques anglais a convaincu l'armée de faire passer plusieurs avions. Et la conclusion, c'est que non, c'est pas culbuto. Ils ne culbutent pas. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est que finalement, la science, elle ne peut pas être fléchée. On ne peut pas dire, il faut découvrir ça ou il faut faire ça. C'est une curiosité intrinsèque et vous avez le droit de vous intéresser à tout. Vous enfermez un scientifique dans un placard à balai, il va vous faire de la science du placard à balai. Et ça, c'est drôle parce que c'est sortir de l'idée que mon malheureux compétiteur a encore propagée aujourd'hui, que l'idée, l'étude très sérieuse est quelque chose qui a de l'importance. Pour moi, le fait que la science soit irrationnelle, qu'elle soit un peu une folie, ça montre que c'est une construction humaine.
Tu vas voir ma question vache,
poétique,
Alain.
Bon, eh bien, je trouve ça très poétique.
C'est donc l'heure néanmoins de la question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarlé.
Alors, vraie question qui moi n'est pas loufoque, très sérieuse. Puisqu'on parle du prix Nobel, Alfred Nobel a fait fortune grâce à une invention. Ah, laquelle ?
Je le savais.
Ah bah oui, donc c'est une question vache. Donc je vous rappelle que les vaches qui portent un prénom font plus de lait que les autres. Bon. Donc c'est l'inventeur de la dynamite.
Bravo.
Et pam, Axel, vous pensiez coincé Alain, mais
je
non.
Je trouve ça très choquant que le prix Nobel de la paix soit financé grâce à de la dynamite.
Si c'était, vous voulez mon avis.
C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en parler.
C'était l'édito politique d'Axel de Tarlé sur Europe 1. Merci Alain. Ou alors pour résumer, Tinder ou la Nobel de la déglingue, quel sujet aura les faveurs de notre invité d'honneur ? Son nouvel album L'An 40 sort la semaine prochaine. Jeanne Chéral est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 se succèdent au micro pour vous offrir l'info, l'histoire, l'anecdote que vous adorerez raconter au dîner ce soir. Mais pour ce faire, encore faudrait-il qu'il y ait un dîner. Or je vous connais, votre épouse vient de vous envoyer un SMS, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et vous n'avez trouvé rien d'autre à répondre qu'un émoticône, bonhomme, haussement d'épaule. Vous avez de la chance, délice in extremis, notre recette facile de dernière minute arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Et oui, Jeanne Chéral est notre invitée, l'équipe est sauvage, la grande compétition des meilleurs meilleurs journalistes d'Europe 1 continuent. Croche-pattes dans les couloirs, chantage de diffusion de photos coquines, harcèlement moral et empoisonnement au Dulcolax. Toutes les méthodes sont bonnes pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Dans quelques minutes, nous saurons qui vous avez désigné vainqueur aujourd'hui. Mais d'abord, je vous connais. Ce soir, vous allez mettre les pieds sous la table. Et quand vous direz à votre femme...
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de serre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre?
Elle vous dira, à juste titre, bah mon gros, t'avais qu'à faire les courses. Vous avez encore évidemment complètement oublié. Voici Délices in Extremis, la rubrique qui vous sauve la mise. Et pour pas cher. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe, bonjour Jeanne Chéral.
Alors Olivier, s'il y a un mot que globalement tout le monde déteste, c'est le mot croûte. Et bien, vous allez me... Mais c'est vrai, désolé, on a jamais fait une chanson avec croûte dedans.
On est tous écœurés par la
déjà
croûte.
Déjà écœurés. Eh bien, vous allez nous faire changer d'avis, Olivier.
Ben, j'espère, avec une croûte un peu originale, pas une vieille croûte, une croûte d'herbe qui va agrémenter un poisson auquel on ne pense pas forcément, parce que vous savez, c'est vrai que les poissons sont relativement chers. Et je vous rappelle que vous m'avez quand même donné un challenge cette semaine, c'est de cuisiner à deux pour moins de 10 euros.
Tout à fait.
Donc j'ai remballé le homard, le turbo, la dorade, etc., etc. Et je me suis retourné vers le lieu. Alors le lieu noir, qui est quand même un lieu qui est meilleur que le lieu jaune, qui est plus raffiné. Le lieu jaune, en général, c'est...
Ah bon, mais vous m'avez fait du lieu jaune la dernière fois chez vous, au dîner. Vous êtes gonflé, vous auriez pu prendre le lieu noir.
C'était les croustibates alors, parce qu'en général, le lieu jaune, il finit dans les poissons panés. Donc demandez plutôt du lieu noir, et en l'occurrence, demandez à votre poissonnier de vous préparer deux jolis filets, hein, pour vous, hein, pour votre femme en l'occurrence. Et puis, vous allez préparer cette simplissime croûte d'herbe qui va agrémenter votre poisson. Alors, comment on prépare cette croûte d'herbe? Ben, vous aurez toujours trouvé un petit morceau de pain, alors du pain de mie que vous aurez débarrassé de la croûte, justement, pour ne garder que la mie. Vous aurez pris une belle poignée d'herbe. Alors, vous mélangez un peu tout ce que vous trouvez, hein, du persil plat, de la coriandre. On peut rajouter un petit peu de basilic. On peut rajouter un peu d'estragon. J'aime beaucoup l'estragon. Il vous faut également du beurre que vous aurez ramolli, tout simplement. Vous l'aurez sorti du frigo. Il faut qu'il soit mou. Et puis du sel, du poivre et une petite cuillère de moutarde en grain. Donc vous allez découper, mixer votre pain avec tous les ingrédients et le beurre mou, c'est très important parce que s'il est dur, on ne pourrait pas le mixer. Donc vous allez constituer une espèce de pâte, une pâte un petit peu, qui aura un peu de consistance quand même, qui regroupera les herbes hachées finement, la moutarde, le pain, le beurre, etc., etc. Cette galette, vous allez l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 1/2 cm. Et vous allez la découper aux dimensions de vos morceaux de poisson. Vous commencez la cuisson du poisson tout simplement au four, sous le grill, 3 minutes d'un côté. Vous le retournez et là, vous posez votre galette de croûte d'herbe par-dessus. À nouveau, 3 minutes sous le grill. Qu'est-ce qui va se passer? Le beurre va fondre, le pain va commencer à croustiller. La galette va enrober votre poisson et elle va venir, évidemment, le parfumer. Il n'y a plus qu'à sortir, à servir avec un peu de riz, de la purée de pommes de terre, ce que vous voulez. Et vous avez un plat assez bluffant, je trouve, pour pas cher.
Qu'est-ce qu'on boit là-dessus, Olivier?
Eh bien, qu'est-ce qu'on boit là-dessus? Ben, vous allez chercher un grand bourgogne blanc dans votre cave. Mon cher Mathieu, je sais qu'il y en a beaucoup. Donc, ne soyons pas radins et faisons-nous plaisir.
Oui, et les 10 euros pour deux, là, on oublie au défi des 10 euros.
Moi, vous m'avez dit hors boisson. Alors, moi, je me tiens à votre truc.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Sa créativité est telle qu'elle pourrait pondre en quelques minutes une chanson sublime sur le lieu en croûte d'herbe. Son nouvel album, L'An 40, sort la semaine prochaine. Jeanne Chéral est avec nous jusqu'à 18h. Europe 1. L'atmosphère se fait moite dans le studio Coluche. À mesure que le dénouement approche, bientôt nous saurons qui, de l'ordre d'Autriche, Alain Sirou, Axel de Tarlé ou Nicolas Caro, sera élu chroniqueur du jour. Chaque candidat transpire dans son coin du ring, serviette au cou, rongé par l'angoisse presque liquide.
Comme un camembert bien coulant en fin de repas.
L'image est belle, Eva, l'image est belle. Vous aussi, vous devriez écrire, Eva. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, l'émission qui vous badigeonne de culture, vous tartine d'humour et vous farce le cerveau d'actualité. Avec en toile de fond, un épisode sanglant de Game of Thrones. Trahison, violence, abus de pouvoir, attaque de dragon, toute forme d'empathie a déserté la rédaction d'Europe 1, le seul et unique but des journalistes désormais, obtenir le Graal. Le titre de chroniqueur du jour. Alors, les droits des lecteurs, les Nobel du n'importe quoi, les secrets du Boléro de Ravel ou les nouvelles perspectives des applis de rencontre, quel sujet vous aura le plus passionné aujourd'hui? Eva, il est temps de découvrir le vote des auditeurs.
Alors ça a été mais très serré parce que c'est Axel qui le remporte.
Avec 31% des voix,
alors que Alain Sirou était à 30%. Et donc c'est Axel qui marque les 2 points.
2 points pour Axel de Tarlet. Pour ma part, j'ai adoré la chronique d'Alain Sirou sur les ignobelles, mais c'est Laure d'Autriche qui remporte mon point.
Merci.
Mon point du cœur pour ses secrets du Boléro de Ravel. Très belle entrée en matière, très belle
Merci,
entrée en piste
Mathieu.
Pour Laure d'Autriche aujourd'hui. Nous sommes 2 points pour Axel, 1 point pour Laure d'Autriche, mais c'est là que tout se joue. Leur prime de fin d'année, la renégociation de leur salaire. Ma chère Jeanne Chéral, votre voix compte triple, elle est donc décisive. Qui mérite, selon vous, de l'emporter aujourd'hui, Laure d'Autriche, Nicolas Caro, Alain Sirou ou Axel de Tarlet. Un dernier mot, peut-être, afin d'influencer notre invité. Oui, Nicolas Caro.
Quelle connerie, la guerre.
Merci. Jeanne Chéral, ça va peut-être faire la différence, on vous écoute.
Ah, mais moi, mon cœur a penché également pour la chronique sur Ravel. Donc, c'est Laure d'Autriche.
Oh, Laure d'Autriche qui donc. Laure d'Autriche qui l'emporte.
Ma reine.
Laure d'Autriche qui, pour son entrée dans la compétition, décroche le titre et va pouvoir se coiffer de la couronne de championne Europe 1 du jour. C'était la 13e journée de Ligue Europe 1. L'équipe est sauvage, recevait la formidable Jeanne Chéral. Et voici ce qui va se passer. La semaine prochaine, vous allez vous rendre à la FNAC et vous allez vous procurer L'An 40, son nouvel album. Et ensuite, comme moi, vous allez l'écouter en boucle.
Bravo.
Merci à vous, Jeanne Chéral, d'avoir joué le jeu avec nous cet après-midi.
Mais
sur
merci,
Europe 1.
C'était un plaisir, vraiment.
Merci Bravo. À vous et merci évidemment à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Laure d'Autriche, Alain Sirou, Nicolas Caro, Axel de Tarlet, ma complice Eva Rock. Ça va, Eva?
J'ai compris une chose.
Oui.
Pourquoi je suis toujours fatiguée? Je réfléchis trop.
Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. L'équipe est sauvage revient demain, 16h.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.